Et le texte que j'aimerais regarder avec vous dans le prophète Malachie, un peu bizarrement, pose les mêmes questions, un peu sous un autre angle. Avec les étudiants du feu, on est en train d'étudier le livre de Malachie petit à petit. Et j'aimerais regarder avec vous la deuxième moitié du premier chapitre. Je vais lire à partir du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Malachie chapitre 1, versets 6 à 14. C'est le dernier, normalement, livre de l'Ancien Testament. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui dédaignez mon nom. Vous dites, en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Et maintenant, implorez donc Dieu pour qu'il nous fasse grâce. C'est de vous que cela vient. Est-ce qu'il va vous faire bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Allons, lequel de vous fermera donc les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et je ne veux pas recevoir d'offrande de votre main. Car, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on apporte une offrande pure. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais c'est vous qui le profanez, en disant « La table du Seigneur est souillée, et ce qu'on en retire est un aliment à dédaigner. » Vous dites « Quelle fatigue !» et vous en faites fi, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Voilà l'offrande que vous amenez. « Vais-je la recevoir de vos mains ?» dit l'Éternel. « Maudit soit le perfide qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête mutilée. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Est-ce que tu peux mettre les quelques diapos, s'il te plaît? Alors, je ne t'ai pas attendu, et du coup, il faut en sauter quelques-unes. Mais peut-être ça ne vous a pas échappé, mais ce texte est adressé en priorité aux prêtres. Aux prêtres de qui? Aux prêtres du peuple, encore une fois. Si tu peux avancer un coup, ouais. Ouais. Aux prêtres des Juifs. Alors pourquoi des Juifs? Parce que Malachie est un prophète qui a écrit avant la venue de Jésus, donc au peuple juif. Et c'est probablement le dernier prophète qui a écrit dans l'Ancien Testament. On est dans les années moins 400, pour ceux qui aiment l'histoire, probablement, même si ce n'est pas daté. Donc toute l'histoire d'Israël est derrière eux. Abraham, c'est derrière eux. Moïse, c'est derrière eux. Le roi David, c'est du passé pour eux. Ils ont déjà été emmenés en déportation, loin de leur pays. Ils sont déjà revenus dans leur pays. Ils ont déjà reconstruit le temple. Et nous sommes après, à la fin de cette histoire, en attendant que le Messie vienne un peu, hein, puisque le Messie est déjà annoncé, mais ils l'attendent toujours à l'époque de Malachie. Et dans ce texte, Malachie s'adresse aux prêtres. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un prêtre? Peut-être dans votre Bible, c'est écrit « sacrificateur ». Et ça donne un peu, ça prête un peu à confusion, ça donne l'idée que le prêtre est celui qui officie pour les sacrifices et que c'est son principe premier, c'est à ça qu'il sert seulement. C'est un peu l'image qu'on a. Quand on parle de prêtre de nos jours, on pense aux prêtres catholiques et on s'imagine juste qu'il officie lors de la messe. Donc il est juste intéressé à célébrer une sorte de culte. Même de nos jours, c'est réducteur. Les prêtres catholiques ne font pas que ça. Et les prêtres de l'Ancien Testament non plus ne faisaient pas que ça. D'ailleurs, Lévitique au chapitre 1, on a une description un peu d'un sacrifice. Alors Lévitique, c'est au tout début de la Bible, à l'époque de Moïse. Je vais le lire là parce que... Lorsque l'un d'entre vous offrira un animal en sacrifice à l'Éternel, il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel, et les descendants d'Aaron, les prêtres, offriront le sang, ils en aspergeront tous les côtés de l'autel. Qui tue l'animal ? Ce n'est pas le prêtre, en l'occurrence, là. C'est la personne qui offre le sacrifice. Une personne lambda, vous et moi, si on était à l'époque, on viendrait au temple, et c'est nous qui trancherions la gorge de l'animal. Sympa. Alors, des fois, le prêtre était celui qui tuait l'animal, mais pas toujours. Donc, le prêtre n'est pas une sorte de boucher sacré, en quelque sorte. Pas vraiment. Par contre, on voit qu'une fois que l'animal était sacrifié, le prêtre prenait l'animal et il se chargeait de l'approcher de l'autel d'une certaine manière. Ici, pour mettre du sang, pour d'autres sacrifices, en prenant certaines parties de l'animal pour les brûler sur l'autel, etc. Donc, le prêtre était le seul à pouvoir s'approcher de l'autel. Si tu avances d'une... Voilà. En fait, si on parcourt l'Ancien Testament pour comprendre ce que faisaient les prêtres, ils avaient différentes attributions. Donc, ils s'approchaient de l'autel, eux seuls, avec les sacrifices. Mais on les voit aussi qui apportent, qui prononcent la bénédiction de Dieu sur le peuple. Il y a même des formules consacrées, que l'Éternel, etc., etc. On voit aussi que le prêtre est là pour consulter l'Éternel de la part de Dieu. Peut-être si vous avez lu l'histoire de David, à des moments, il consulte l'Éternel pour savoir « Est-ce que je dois attaquer les Philistins maintenant ? Et je dois les attaquer par où ?» C'était très précis des fois. « Est-ce que je dois les attaquer par ce chemin ou par ce chemin-là » Et c'était le prêtre qui faisait l'interrogation de Dieu de la part de David. Et puis, on voit à d'autres endroits que le prêtre a pour mission d'enseigner à tout le peuple la loi de Dieu. Et donc, si on fait un peu un résumé du rôle des prêtres dans l'Ancien Testament, en fait, ils se tenaient entre le peuple et Dieu pour faire intermédiaire. Quand le peuple voulait parler à Dieu, très souvent, ça passait à travers le prêtre. Et ce que Dieu disait au peuple, souvent, passait à travers le prêtre. Ce n'est pas seulement comme ça. Les prières directes existaient. Dieu, parfois, utilisait des prophètes qui n'étaient pas des prêtres. Mais c'est un peu l'idée du prêtre. Il se tient entre le peuple et Dieu. Alors, si on revient à notre texte dans Malachie, est-ce que tu peux avancer une fois, s'il te plaît ? C'est le suspense. Il est bloqué ? Le début du texte dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître ». Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit ? Alors, il y a deux mots qui sont utilisés par Dieu pour se décrire, père et maître. Et effectivement, Dieu étant le Dieu de ce peuple, le peuple pouvait l'appeler notre père. Alors, ça existait aussi à l'époque, même si Jésus a ouvert grand cette possibilité d'appeler Dieu notre père. Ils avaient déjà cette notion, le peuple juif, de Dieu comme le... comme leur père. Alors, il y avait moins de proximité peut-être qu'avec Jésus, mais il y a cette notion. Et bien sûr, la notion de maître, celui qui donne un ordre et tout le monde doit exécuter. À l'époque, on avait une société très patriarcale dans cette région, et donc quand on disait père, on comprenait tout de suite l'autorité qui était posée. Si Dieu est père, on ne rigole pas avec lui. S'il est le maître, dans une société où l'esclavage existait, on comprenait bien ce que ça voulait dire. Le maître parle, on exécute. Alors bien sûr, Dieu n'était pas rigide comme ça, mais des fois, il devait rappeler qui il était. Et là, il dit au peuple, vous m'appelez maître et père, c'est bien de le faire avec la bouche. Il faudrait que ça se traduise en acte. Et c'est pour ça qu'il demande où est l'honneur qu'on me doit, le respect qu'on me doit. Tu veux avancer, s'il te plaît ? Alors là, je ne l'ai pas pris dans ma version, parce que moi, dans ma version, c'est écrit sacrificateur. Et j'ai dit que ça prêtait à confusion. Alors je vais le lire ici. Dit l'Éternel, le maître de l'univers, à vous les prêtres, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé ? C'est en disant, la table de l'Éternel est dérisoire. Alors, il y a un jeu de questions-réponses qui est là. Et on voit que Dieu a quelque chose à reprocher aux prêtres. Et on voit dans la réponse des prêtres qu'ils prennent ça avec beaucoup de légèreté. Quoi ? C'est quoi le problème ? Pourquoi t'es pas content maintenant ? On fait pas ce qu'il faut ? Alors, pour l'instant, ça paraît un peu abstrait. Oui, bah, ils font pas bien les choses, mais qu'est-ce qu'ils ne font pas bien exactement ? Et après, le prophète précise dans la diapo suivante. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous amenez une boiteuse ou une malade, n'est-ce pas mal ? À plusieurs reprises, quand Dieu avait expliqué comment les sacrifices devaient marcher, devaient être offerts, dans le Lévitique en particulier, c'était bien précisé, vous offrirez une bête sans défaut. Et puis, à un autre endroit, c'est expliqué, sans défaut, ça veut dire quoi ? Il ne faut pas qu'elle soit aveugle, il ne faut pas qu'elle ait un membre trop long ou trop court, faut pas etc., etc. Il y a pas mal de conditions. En fait, la bête devait être en parfait état physique. Alors, ce n'est pas que Dieu refuse de voir les handicaps ou des choses comme ça, mais il y a un côté symbolique derrière. Et c'était écrit noir sur blanc. Vous n'apporterez pas ce genre de bête abîmée en sacrifice. Et là, visiblement, bah, ils le font quand même. Alors, ce n'est pas eux qui amènent les bêtes, souvent. Hein. C'est des gens qui viennent apporter des bêtes. Et le prêtre était censé dire, mais écoute, moi, je suis censé t'enseigner la loi. Et la loi dit, mais non, les bêtes abîmées, les bêtes estropiées, comme ça, ce n'est pas possible pour un sacrifice. Et visiblement, ce que là faisaient les prêtres, ils disaient « ça va, ça passe. Bon, on ne va pas s'embêter, puisque tu es là, autant l'offrir. Hein. » Ouais, vas-y. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas ce genre de choses qui ont été offertes, mais j'imagine bien la scène, vous voyez, le prêtre qui est là, c'est bon, vas-y, acceptez, ça passe. Et puis il dit « ça casse pas trois pattes à un canard hein. », je ne sais pas si vous connaissez l'expression, tu veux passer ? Et puis, ouais, bah pourquoi pas, tant qu'on y est, un canard à trois pattes plâtré. Allons-y. De toute façon, tout le monde s'en moque. C'est ça le problème, tout le monde s'en moque. Tu veux avancer encore ? Alors, vu que les prêtres ont l'air de prendre ça à la légère, Dieu essaie de leur faire comprendre que leur attitude n'est pas normale. Il leur propose une comparaison. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel des armées. Et maintenant, faut pas que je le prenne dans ma version là. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil ? C'est là ce que vous demande le Seigneur des armées célestes. Alors, mon choix de couleur est très mauvais parce que vous voyez pas qu'il y a deux couleurs, mais en gros, Dieu fait une comparaison entre l'attitude possible du peuple par rapport au gouverneur, c'est-à-dire à une autorité humaine, et puis l'attitude que le peuple a envers Dieu, c'est-à-dire l'autorité suprême. Et c'est bien une comparaison qu'il fait, parce qu'il y a cette formulation qui revient, « Vous fera-t-il bon accueil ?» Tu vas faire un cadeau au gouverneur, un humain, tu vas réfléchir, comment va-t-il réagir ? Si je veux qu'il réagisse bien, je vais peut-être lui offrir quelque chose de bon, quelque chose qui lui convient, quelque chose qui correspond à ce qu'il m'a demandé. Alors, si tu fais ça pour une autorité humaine, pourquoi tu ne le fais pas pour Dieu ? Est-ce que Dieu est moins exigeant ? Est-ce que Dieu est moins grand ? C'est ça la question que pose Malachi. J'ai changé de version parce que dans cette version, on comprend bien qu'en fait, il y a de l'ironie dans la question de Malachi. Ah, après avoir fait tout ça, tu vas supplier Dieu qu'il te fasse grâce ? C'est encore cette idée, vous m'appelez Dieu, vous m'appelez Père, vous m'appelez Maître. C'est que des paroles. Ensuite, vous venez, vous faites les belles prières, « Dieu, délivre-nous, Dieu, sauve-nous !» Pareil, que des paroles. Parce qu'en fait, vous n'avez aucune crainte de Dieu, puisque vous craignez plus le gouverneur que vous ne craignez Dieu, visiblement. Sévère. Et d'ailleurs, la conclusion logique qui arrive au verset 10, si tu veux la mettre. Allons, lequel de vous fermera donc les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel ? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et je ne veux pas recevoir l'offrande de votre main. En quelque sorte, Dieu dit, si c'est ça le culte que vous m'offrez, autant qu'on arrête tout de suite, on ferme la boutique, un culte comme ça, ça ne m'intéresse pas. Faire semblant, ça ne sert à rien. Un culte seulement aux paroles, non. Si culte il doit y avoir, c'est un culte qui correspond à ce que j'ai demandé, avec de l'obéissance donc. Alors je saute le verset 11, et puis on va aller directement au verset 12. Voilà. À partir du verset 12, Malachie en rajoute une couche, mais ça va un peu plus loin en fait. Mais c'est vous qui le profanez en disant « La table du Seigneur est souillée, et ce qu'on en retire est un aliment à dédaigner. » Vous dites « Quelle fatigue !» et vous en faites fi, dit l'Éternel des armées. « Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Voilà l'offrande que vous amenez. Vais-je la recevoir de vos mains ?» dit l'Éternel. Alors, il y a quelque chose d'un peu bizarre là. Au verset 12, à la fin du verset 12, les prêtres se plaignent maintenant. Alors qu'au début du texte, on les voyait plutôt dire oh, « ça va, ça passe », agir avec légèreté. Et à la fin du verset 12, on voit les prêtres qui disent mais ce qu'on retire de la table est un aliment à dédaigner. Alors pourquoi disent-ils ça ? En fait, il y avait plusieurs sortes de sacrifices offerts sur l'autel. Et certains de ces sacrifices étaient intégralement brûlés. Mais d'autres sacrifices étaient brûlés en partie. Et une autre partie, parfois, était pour la personne qui avait amené le sacrifice. Et d'autres fois, il y avait des parties qui étaient réservées au sacrificateur, au prêtre. Pardon. Donc le prêtre prenait une partie de l'animal et il s'en servait pour se nourrir. Hein. C'était un peu son revenu. C'était son gagne-pain, en quelque sorte. Il mangeait la viande. Et là, en gros, les prêtres se plaignent, la viande qu'on tire de l'autel n'est pas super, quoi. Ce qui n'est pas vraiment surprenant, parce que si on amène un poussin à tête de lapin, j'ai pas trop envie de manger ça dans mon assiette, quoi. Ça me fait pas envie. En fait, en quelque sorte, les choses se sont retournées contre les prêtres. Ils ont été dédaigneux. Enfin non, ils ont été légers par rapport aux conditions pour offrir les animaux, et après ils se retrouvent avec des animaux pas très bons. Alors peut-être qu'au début c'était juste un animal avec une patte trop longue, ça change pas grand-chose sur la viande j'imagine. Mais une fois que la vanne est ouverte, une fois qu'on a laissé faire n'importe quoi, les gens qui apportaient l'offrande se sont peut-être dit il n'y a pas de contrôle, alors on va amener ce qui nous arrange. Hein. Oh, celle-là, elle est malade, elle risque de contaminer tout le troupeau. Il faut s'en débarrasser. Bon, plutôt que de la battre et de la perdre, c'est celle-là que je vais offrir en sacrifice, comme ça, elle n'est pas perdue. Et voilà le prêtre qui se retrouve avec de la viande d'animal malade. Et puis, il est question au verset 13 d'animaux dérobés. Alors, peut-être que dans votre Bible, c'est écrit différemment, d'animaux arrachés. Là, c'est peut-être l'idée que le berger était là, en train de garder le troupeau. Tout d'un coup, il y a un lion qui arrive. Il y en avait beaucoup dans la région. Et le lion attrape une bête. Et là, le berger, il se dit, hors de question, celle-là, je la garde. Il s'attaque au... Enfin, ça s'est déjà vu, David l'a fait. Hein. Il attaque le lion. Il réussit à sauver la bête. Mais dans quel état il la retire ? Elle est encore vivante, tout juste. Elle va mourir de toute façon. Bon, autant l'offrir en sacrifice. Hein. Sauf que, avec le stress qu'elle a reçu, imaginez l'état de la viande, là, elle est toute... j'y connais rien en boucherie, mais... Bref, ça s'est retourné contre les prêtres. Tu veux avancer encore une fois, s'il te plaît ? Alors, la conclusion de Dieu... C'est quoi ? Maudit soit le perfide qui a dans son troupeau un mâle Alors là, il ne s'adresse plus vraiment seulement aux prêtres, il est en train de s'adresser à tout le peuple, parce que tout le peuple peut amener un animal. Et Dieu est en train de dire, ah, vous avez dans votre troupeau un mâle, alors pour certains sacrifices, il fallait spécifiquement que ce soit un mâle. Et là, ils avaient une bête mutilée. Alors j'imagine qu'il y a eu un accrochage avec des cornes, et peut-être que c'est plus un mâle, justement, à cause de ça, et que du coup, c'est une bête plus trop utile après avoir été castrée. Autant l'offrir. Hein. J'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit. Mais quoi qu'il en soit, c'est écrit et qui voue en sacrifice. Donc il y a l'idée d'un vœu. Ça veut dire que la personne a dit... je vais apporter telle bête en sacrifice. Et quand on lit dans les prescriptions sur les vœux dans l'Ancien Testament, le prêtre devait dire, bon, bah, d'accord, cette bête, tu l'offres en sacrifice, on n'échangera pas cette bête contre une autre, c'est bien celle-là qui est vouée. Même le prêtre, des fois, devait estimer la valeur. Et là, au dernier moment, il y a une sorte d'échange qui est fait, une sorte d'arnaque, en quelque sorte. Hein. Dieu est arnaqué vraiment dans cette situation. Quoi qu'il en soit, le peuple là vient avec une bête différente de celle qu'il avait promise au départ, de moins bonne qualité, de moins grande valeur. Et là, Dieu dit « Maudit soit celui qui fait ça ». Et là, ce n'est pas juste les prêtres, c'est maudit quiconque dans le peuple apporte une bête en spoliant Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi servent les prêtres, quelle est leur tâche, mais une de leurs tâches, c'est de prononcer la bénédiction de Dieu sur le peuple. Et voilà qu'à cause de l'attitude négligente des prêtres, Dieu en arrive à dire « Maudit soit ce... » Alors pas ce peuple, mais ceux dans le peuple qui agissent d'une telle manière. Échec sur toute la ligne pour les prêtres. Est-ce que tu veux avancer, s'il te plaît ? Alors, j'avais sauté le verset 11, qui est un peu le cœur de notre texte. Et peut-être qu'en lisant ce qui est affiché, vous êtes un peu surpris, parce que vous n'avez peut-être pas la même chose dans votre traduction. Je vais lire ce qui est affiché. « Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des nations. Et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures. » Car parmi les nations, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Peut-être qu'en le lisant dans votre Bible, vous ne l'avez pas au futur, mais vous l'avez au présent. D'ailleurs, c'est ce qui est dans ma Bible. Et en le lisant dans ma Bible, j'étais assez surpris de lire ça, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des vrais adorateurs ? À l'époque de Malachie, il y avait des vrais adorateurs partout, sur toute la terre ? C'est bizarre, j'ai jamais entendu parler de ça. Ou alors, est-ce que ça veut dire que Dieu accepte n'importe quel culte à partir du moment où il est sincère, que ce soit un culte païen, un culte... Mais je ne sais pas si vous avez un peu lu la Bible, mais ça ne marche pas bien, ça. Hein. Et puis, les traducteurs du texte original se trouvent face à un texte qui n'est pas en français, c'est le principe du traducteur. Et en français, on a le passé, le présent, le futur, c'est clair, c'est net, on sait toujours où on est dans le temps. Mais dans le texte original, dans la langue, il ne s'intéressait pas toujours au temps, passé, présent, futur. Il s'intéressait plutôt à l'idée, est-ce que c'est une action ponctuelle ou est-ce que c'est une action qui dure, qui est habituelle. Et là, dans ce texte, il est question de quelque chose d'habituel, mais ça pourrait être au passé, au présent, au futur. L'original ne nous l'impose pas. Et du coup, il y a des traducteurs qui ont regardé ça, ils se sont dit, c'est à quel moment ? Et puis ils ont dit, non mais ça ne peut pas être présent. Sinon, Malachie, il dit n'importe quoi. Et un prophète de Dieu qui dit n'importe quoi, on est embêté. Alors, la seule manière de traduire correcte qui fait que Malachie ne soit pas en train d'affabuler, c'est de le traduire au futur. Et si on le traduit au futur, ah là, ça a du sens. Vraiment. Parce que Malachie est en train de se tourner vers un peuple qui a toute une histoire religieuse de relation avec Dieu, depuis des siècles, et qui a plutôt montré qu'il ne s'en sortait pas bien. Et voilà, on a le bilan. Bon, vous continuez à m'offrir un culte, ok, mais vous le faites de manière tellement malhonnête que je préférerais que vous arrêtiez. Ça, c'est le verset 10. Au verset 10, Dieu dit « Fermez-moi ces portes de temple, je ne veux plus les voir, je ne veux plus vous voir en train d'allumer mon autel, le feu sur mon autel. » Pourquoi ? Parce qu'au verset 11, il dit « J'ai prévu autre chose. Un jour, je vais prévoir un culte qui sera pur. » Alors, il l'exprime en termes de sacrifice israélite, hein, parce qu'ils n'auraient pas compris l'idée d'une crucifixion ou de choses comme ça, les Israélites à cette époque. Mais il est en train de dire « Un jour, les bêtes ont allé un petit peu trop vite pour moi, là. Tu veux revenir un coup en arrière, s'il te plaît ? Un jour, les offrandes qu'on m'offrira seront pures. » Alors nous ne offrons pas de sacrifice, hein, mais il y a une purification qui est opérée. Un jour, sur toute la terre, on m'offrira ces choses. Et on sait que le message de Jésus est allé jusqu'au bout du monde. Il a encore des progrès à faire dans certains peuples, mais on est beaucoup plus proche de ce que Malachie 1.11 décrit que la situation à l'époque de Malachie elle-même. Maintenant, tu peux avancer. Alors, nous qui avons lu le Nouveau Testament, on voit que Malachie 1.11, enfin que tout ce passage pointe vers une offrande parfaite, l'agneau parfait, celui qui n'a pas de défaut, celui qui est pur. On voit aussi que ce texte pointe vers des prêtres, vers un prêtre en fait, vers le prêtre qui ne sera pas dédaigneux de son travail, qui ira jusqu'au bout, qui ne se fatiguera pas, même s'il aura un travail beaucoup plus difficile à accomplir que de juste offrir du sang sur un autel. Ce sera son propre sang. Et puis, ça pointe aussi vers une époque où l'esprit sera répandu sur tout ce qui s'approche du vrai prêtre et du vrai agneau. Et cet esprit va agir dans les cœurs pour que le culte rendu, ce ne soit pas « je vais faire mes devoirs religieux, mais pas trop me fatiguer ». Non, cet esprit répandu dans les cœurs va placer un enthousiasme, une envie, un amour de Dieu et un désir de lui donner le meilleur. Tout à l'heure, tu parlais d'évangile dans l'Ancien Testament. Il y a tellement d'endroits. Je ne vais pas dire partout parce que ce serait peut-être exagéré, mais en tout cas, il est en germe à tellement d'endroits. Et là, il y est. Je prépare quelque chose de meilleur, dit Dieu au prophète. Et c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Alors, en pratique. Très rapidement, on se dit, bah tiens, ce texte s'adresse aux prêtres, et donc les responsables du peuple à l'époque, et donc bah, les responsables de l'Église ont quelque chose à en tirer. On attend des responsables de l'Église qu'ils enseignent l'Assemblée, protègent le culte, cherchent la direction de Dieu pour conduire l'Église, soit une source de bénédiction pour l'Église. J'ai repris les quatre attributs du prêtre dont je vous avais parlé au début de ce message. Et c'est vrai, on a le droit d'être exigeant par rapport à nos responsables d'église, c'est ce qu'on attend d'eux. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que, en fait, ce serait presque un peu simple pour nous de limiter la portée de ce message de Malachie juste à dire voilà comment on doit choisir nos responsables et voilà comment on doit tomber sur nos responsables s'ils n'entrent pas dans ces clous. En tant que responsable, on est censé être interpellé par cela. Mais ce n'est pas pour que l'ensemble de l'Église dise « c'est pour eux » et nous, on est tranquille par rapport à ça. Pourquoi je dis ça ? Et là, est-ce que tu veux avancer une fois ? J'avais parlé du prêtre comme médiateur entre le peuple et Dieu, comme intermédiaire. Et le Nouveau Testament nous dit « il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus-homme ». Ça veut dire que les responsables de nos assemblées ne sont pas un intermédiaire entre Dieu et nous. Donc ça veut dire que ce n'est pas la copie ou l'imitation des prêtres de l'Ancien Testament. Ce n'est pas juste une transposition, je prends les prêtres, maintenant j'appelle ça des pasteurs ou des anciens, et c'est la même chose. Non. Non, parce que ce serait leur donner un rôle trop grand qu'ils ne peuvent pas porter. Ils ne peuvent pas être l'intermédiaire entre Dieu et nous. Oui, ils rendent des services à Dieu et à l'Église, mais il ne faut pas leur en demander plus que ce qui est nécessaire. Ils ne peuvent pas être les médiateurs. Puis il y a un autre texte qui parle des prêtres dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre. Édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Mais vous, vous êtes une communauté de rois prêtres. L'apôtre Pierre n'avait pas réuni des anciens de différentes églises pour leur faire un séminaire et leur expliquer ce que c'était leur rôle. Il parlait à tous les saints dans la dispersion quand il a écrit ça, donc tous les chrétiens. C'est-à-dire que les prêtres de l'Ancien Testament, il y a le prêtre ultime, Jésus, qui accomplit ce que nul autre n'a pu accomplir avant lui et ce que nul autre ne pourra accomplir après lui. Et par contre, la figure des prêtres qui sont intermédiaires entre Dieu et un monde qui ne connaît pas Dieu, une humanité entière, un peuple d'humains, bah c'est nous tous qui sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes tous prêtres, dans ce sens-là. Ça veut dire que nous sommes tous responsables de connaître les commandements de Dieu pour pouvoir les transmettre autour de nous. Et si quelqu'un vient apporter à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui vient et voudrait apporter une sorte de sacrifice à Dieu, mais qui ne correspondrait pas à ce que Dieu demande, ce serait à nous de lui dire « Non, ce n'est pas comme ça que Dieu veut qu'on fasse ». Et lui expliquer. On voit que le problème des prêtres dans le texte de Malachie est un problème d'enthousiasme. On est appelé à être enthousiaste pour Dieu. Pourquoi ? À cause du grand salut qu'il nous a accordé, à cause de toutes les bénédictions qu'il a en vue pour nous, déjà maintenant, et inimaginables dans l'éternité. Pas juste par reconnaissance, par amour, en retour d'amour. Un enthousiasme, une honnêteté aussi. Les prêtres de Malachie n'étaient pas honnêtes. Ils faisaient semblant de ne pas voir les défauts. Est-ce qu'on va faire semblant, nous, d'adorer Dieu ? Les prêtres même en étaient arrivés à avoir des sentiments négatifs vis-à-vis de Dieu. Oh, tu nous as placés là, devant cet autel, et puis on n'en tire que de la viande avariée. C'est pas cool de te servir Dieu. Est-ce que c'est des sentiments justes devant Dieu ? Alors, ces choses ne sont pas là pour juste placer un fardeau sur nous en disant « Il faut qu'on soit joyeux, il faut qu'on soit enthousiaste, il faut qu'on soit content de Dieu. » Ça peut marcher selon notre volonté à 5 minutes, à peut-être quelques années, mais ça finit toujours par s'écrouler. Mais par contre, si on voit que ce sont des mauvaises attitudes pour les prêtres à l'époque de Malachie, si nous, on voit qu'on tend dans ce sens, « je commence à être mécontent de Dieu », c'est un symptôme qui nous montre qu'on a un problème. Et quel est ce problème ? C'est ce qu'on avait au verset 6. « Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit ? S'il y a tous ces symptômes qui s'installent en moi de mécontentement de Dieu, de laisser aller par rapport à Dieu, c'est peut-être que ma vision de Dieu n'est pas bonne. J'ai oublié que Dieu était un père à l'ancienne, à celle de l'Ancien Testament, le père qui conduit, qui dirige, qui est le chef de famille. J'ai oublié qu'il était mon maître. Puis peut-être j'ai oublié, parce que je ne l'ai même pas lu, la fin du verset 14. « Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Mon nom est redoutable parmi les nations. Je suis peut-être mécontent par rapport à Dieu, parce que j'ai oublié qu'il était grand. Et je suis mécontent peut-être parce que je traverse des difficultés, mais Dieu est grand, alors il est tellement plus grand que mes difficultés. Oui, c'est pas facile. Ouais. Et je peux être triste et parfois chargé. Mais si je me rappelle qui est Dieu, c'est pas contre Dieu que ça va se retourner finalement, ultimement. En lisant ce texte, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre toutes les attitudes mauvaises des prêtres, de regarder si ce sont les miennes. Et si ce sont les miennes, de me dire où est-ce qu'ils se sont trompés, les prêtres ? Et ils ne se sont pas juste trompés dans le choix des animaux à sacrifier. Ils se sont trompés en examinant leur relation avec Dieu et en examinant quel Dieu ils avaient, quel Dieu ils servaient. Revenons à examiner et à admirer Dieu. Revenons à nous rappeler le privilège qu'il nous a fait de nous appeler cette communauté de rois-prêtres. Mince, c'est pas rien. Et en se remettant à examiner tout ça, il y a déjà tellement de choses qui vont se régler dans notre attitude. Ça ne nous viendra même plus à l'idée d'être malhonnête avec Dieu. Il est tellement grand, il le voit. Comment je peux penser tromper Dieu ? Ça paraît ridicule, même en le disant comme ça. Pourtant, c'est une attitude... moi, je l'ai vue dans ma vie, déjà. De me dire que Dieu ne voyait pas. J'aimerais finir en priant. Père éternel, notre Seigneur, notre Maître, merci de... Est-ce que nous pouvons nous approcher de l'autel nous-mêmes ? Parce que le grand prêtre, le grand médiateur, le grand intermédiaire a offert son sang déjà. Et l'accès est ouvert. Donne-nous de nous approcher librement et de regarder vraiment qui est là. De regarder quel grand Dieu tu es. Donne-nous de voir toutes les bénédictions que tu as répandues sur nous. Et donne-nous d'apprendre à nous en réjouir et à réaliser que c'est notre vraie joie et notre vrai trésor. Que ces choses nous motivent à te servir, à t'aimer et à être, pour le monde qui nous entoure, des témoins enthousiastes et zélés. Merci pour ton esprit qui peut produire ça en nous. Merci parce que tu nous as attachés à toi. Amen.